Ce message vous est proposé gratuitement. Gratuitement. Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
J'aime Kaku Ministries a le plaisir de vous apporter ce message qui transformera votre vie. Pour tout renseignement, allez sur notre site à www.jemkaku.org. Shalom.
Genèse, chapitre 24. On va pratiquement lire tout le chapitre et on sera béni à travers les communications que le Seigneur nous fera et les révélations qu'il nous fera à travers ce passage. Genèse, chapitre 24, à partir du verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je te donnerai ce pays à ta postérité », lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Donc si la femme refuse de te suivre, tu es dégagé de ce serment. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. On va prier le Seigneur. Père de gloire, je bénis ton nom, je te rends grâce vraiment pour ce passage que nous lisons. Je prie que tu nous ouvres l'esprit, l'intelligence et que tu nous permettes d'avoir le discernement pour recevoir tes révélations. Que nos vies soient à jamais bouleversées, transformées et bénies par les révélations que nous allons recevoir et mettre en pratique, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage-là, la Bible nous explique clairement que Abraham a pour souci de marier son fils Isaac, la Bible qualifie d'unique. Et donc pour ce faire, il appelle un de ses serviteurs, sinon son serviteur, la Bible dit son serviteur, celui qui est l'intendant de tous ses biens, quelqu'un qui a véritablement une position très élevée dans la maison d'Abraham, et il lui dit, mets ta main sous ma cuisse, ça veut dire là c'est vraiment, mets ta main sous ma cuisse et jure que voilà les choses que tu vas faire, tu iras dans mon pays, d'où je viens, et tu prendras pour mon fils une femme que tu vas lui ramener. Amen. Et effectivement, ce serviteur-là s'en va, la Bible nous le dira par la suite, on va lire à partir du verset 10. Le serviteur donc prit 10 chameaux, parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Tous les biens, il a en sa disposition tous les biens de son seigneur. Et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu as usé de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Donc la fille du fils du frère d'Abraham. Donc en fait, quelque part, une cousine éloignée d'Isaac. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Verset 21. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Ça veut dire que l'homme même la regardait aller puiser de l'eau, et il la regardait seulement et ne disait rien, et il ne bougeait pas. Il ne l'a même pas aidé. Vous dit, moi je vais puiser de l'eau pour tes chameaux, et toi tu es là, tu me regardes. Amen. L'homme la regardait avec étonnement sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-sicle et deux bracelets du poids de 10 sicles d'or, et il dit, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Notez bien, ils n'ont pas dit à la maison de son père, mais à la maison de sa mère. On va y revenir. Alléluia. Vous savez, il y a des actes dans la vie d'un homme qui sont capables de changer le cours de sa vie et de le mettre en contact avec sa destinée, avec le miracle, avec le surnaturel. Tout est une question d'action que nous posons et d'actes que nous posons. Rebecca, et récemment le Seigneur m'a mis à cœur d'étudier toutes les femmes qui sont dans la lignée de Jésus. C'est-à-dire toutes les femmes qui sont un peu quelque part les ancêtres ou bien les grands-parents ou les parents de Jésus. Vous allez voir que effectivement dans la Bible, elles font partie donc de l'arbre généalogique de Jésus. Vous allez voir que dans la Bible, il y a beaucoup de femmes dont on parle, qui effectivement, telles que Ruth, telles que Rebecca et d'autres, et même des personnes qui n'étaient même pas des Israéliennes, mais qui font partie de la généalogie de Jésus. Vous allez vous rendre compte que à un moment donné, ces femmes-là ont posé des actes ou ont fait des choses qui étaient extraordinaires. Vous savez, avoir la grâce d'être l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus, c'est un statut éternel. Alléluia. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. C'est pour ça que des gens ont pu dire à Marie, mais toi-même, vraiment, tu es bénie, parce que c'est à travers toi que le Christ est venu sur la terre. Et on ne peut pas lui occulter ça. Amen. Elle a dû faire des sacrifices. Et on en parlera. Elle a dû payer un prix. Le prix en tant que femme, en tant que vierge, promise à un homme d'accoucher avant le mariage, elle s'exposait à la lapidation, sa réputation allait prendre un coup, elle allait être rejetée d'Israël, et elle aurait pu, Dieu ne l'a pas obligée de porter cet enfant. Elle aurait pu dire non, je refuse. Elle aurait pu refuser de faire le sacrifice. Et Christ n'allait pas venir sur la terre, en tout cas pas à travers elle. Amen. Et je me demande à cette période-là combien de juives de 17 ans, vierges, et qui en plus de ça étaient des descendantes de David, par le père et par la mère, on pouvait trouver dans cette période. Amen. Mais le fait de poser des actes et faire des sacrifices de grande portée ont permis à ces femmes-là de s'illustrer et de se faire une place dans la lignée du Christ et donc dans la liste des personnes qui ont permis que l'humanité soit sauvée. Vous savez, Rebecca a posé un acte exceptionnel. Lorsqu'on le lit comme ça, on a tendance à survoler et à ne pas comprendre qu'est-ce que cela impliquait comme sacrifice et comme engagement. Mais c'était d'énormes sacrifices. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Amen. D'abord, elle ne savait pas qui était l'homme qu'elle aidait. Amen. Et l'aide qu'elle devait lui apporter n'était pas négligeable. Vous savez, faire boire un chameau, c'est pas comme faire boire un chien. C'est pas la même chose. Ça, déjà d'emblée, je peux vous dire ça. Les chameaux sont des animaux qui sont utilisés dans le désert, tout simplement parce qu'ils ont la capacité de fournir des efforts pendant longtemps sans boire de l'eau. Pas parce qu'ils n'ont pas besoin de boire de l'eau, mais tout simplement parce qu'ils ont un estomac qui est tellement développé qu'ils ont la capacité de boire 30 litres d'eau minimum chacun. Ils peuvent boire en moyenne 30 litres d'eau et puis stocker cette eau-là et ne même pas uriner pendant des jours et des jours et réutiliser cette eau-là pour pouvoir apporter donc tout ce dont l'organisme a besoin pour pouvoir fonctionner. Donc un chameau ne boit pas 2 litres d'eau ni 3 litres d'eau. Un chameau boit 30 litres d'eau. Et Rebecca connaissait les chameaux. Elle savait qu'un chameau buvait 30 litres d'eau. Et le serviteur d'Abraham n'avait pas un chameau, ni deux chameaux, ni trois chameaux. Il en avait 10. Ça veut dire que pour pouvoir donner à boire à ces 10 chameaux-là, il fallait puiser près de 300 litres d'eau. Et en ce temps-là, je suis désolé, il n'y avait pas de robinet. Donc, il n'était pas du tout question d'ouvrir un robinet et puis les chameaux allaient boire. Non, il fallait que cette demoiselle qui avait déjà puisé son eau, donc il fallait aller au puits, puiser de l'eau, la mettre cette eau-là dans une cruche, et les cruches contenaient en moyenne 7,50 litres maximum. 7,50 litres. Pourquoi? Parce que il y a les 7,5 kilos de l'eau, plus, en ce temps-là, il n'y avait pas de plastique. C'était de la terre cuite. Donc, pour pouvoir avoir 7,50 litres d'eau, il fallait porter une jarre qui pesait à peu près aussi 7,5 kilos. Donc, à peu près 15 kilos que la dame devait porter. Amen. Pour pouvoir aller au puits, prendre de l'eau, remplir la cruche, revenir à l'abreuvoir, verser l'eau, reprendre la cruche vide, 7,5 kilos, repartir à l'abreuvoir, au puits, remettre de l'eau dedans. Donc, à chaque fois, on ne remplit pas une cruche après avoir monté un seau. Bon, en ce temps même, c'était même pas des seaux, c'était des poches, de certains animaux qu'on utilisait pour pouvoir aller puiser l'eau. Donc, il fallait le faire au moins 3 ou 4 fois, reprendre encore la cruche. Amen. Et donc, c'était ça, abreuver, donner à boire à 10 chameaux. 30 litres par chameau, ça fait 300 litres à puiser. Amen. Donc, les cruches elles-mêmes qu'elles utilisaient prenaient 7,50 litres à peu près. Donc, il fallait combien de voyages? 2 voyages pour 15 litres, 20 voyages pour 150 litres, 40 voyages pour 300 litres. Ça veut dire que, car Rebecca devait partir au puits, prendre de l'eau, mettre dans la cruche, soulever la cruche, partir à l'endroit où les chameaux buvaient, renverser la cruche, revenir avec la cruche vide, repuiser de l'eau. Elle devait faire ça 40 fois pour pouvoir permettre aux chameaux de boire à satiété. 40 voyages pour faire boire des chameaux. Si elle prenait ne serait-ce que 3 minutes, ce qui n'est pas évident pour un voyage, c'est-à-dire que 3 minutes pour le temps de mettre de l'eau, partir, là même vraiment ça c'est un pas de course, et ce serait difficile de pouvoir faire ça 40 fois. Mais si on calcule 3 minutes seulement pour chaque voyage, ça fait 40 fois 3, ça fait à peu près 120 minutes, ça fait 2 heures de travail. Et figurez-vous que quand elle a rencontré cet homme-là, elle s'apprêtait à rentrer à la maison. C'était pas une question d'aller se mettre sous un joug. Oui, parce que de nos jours, certaines personnes m'ont dit, c'est un joug. Comment? Non, il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas prêtes à faire ce genre de sacrifice-là. Pour le royaume de Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à faire ce genre de sacrifice-là pour le royaume de Dieu. Mais qui s'attendent à ce que Dieu, lui, se manifeste dans leur vie. Amen. Elle était capable de faire un sacrifice, mais d'une ampleur extraordinaire. 40 voyages pour aller nourrir des chameaux d'un individu qu'elle ne connaît même pas. Et lorsqu'elle rendait ce service, elle ne pouvait même pas s'imaginer que cet homme-là allait lui donner quoi que ce soit, ou bien qu'il était venu pour faire quoi que ce soit. C'était tout simplement un élan de générosité. C'était une générosité débordante qu'elle avait. Alléluia. Elle aurait pu dire, parce que lorsqu'il lui a demandé de l'eau, elle a bien vu les chameaux. Elle aurait pu se dire, j'ai une occasion de me faire de l'argent. Et le monsieur, il n'avait ni sac, ni poche pour pouvoir puiser de l'eau, ni jarre. Il n'avait rien. Donc, il était vraiment bloqué. Il était à la merci de Rebecca. À ce moment-là, elle aurait pu se jouer les femmes futées, intelligentes. L'Ivoirien dit, une femme à Wana, elle aurait pu se montrer celle qui voit clair. Donc lui dit, monsieur, je vois que vous avez besoin de puiser de l'eau pour vos chameaux, mais combien est-ce que vous me donnez pour que je puisse faire ça pour vous? Elle aurait pu négocier quelque chose. Et 10 chameaux, quelqu'un qui a 10 chameaux, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Donc elle peut dire, bon, écoute, moi je veux 100 euros pour chaque chameau, ça me fait 1000 euros, et calcule ça rapidement, ça me fait 1000 euros. Mais en faisant ça, elle allait passer à côté de sa bénédiction. Elle allait passer à côté de quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, que Dieu est en train de faire dans sa vie. Dieu n'était pas en train de lui donner 1000 euros ou 200 euros. Dieu était en train de changer le cours de sa vie, de la faire entrer dans sa destinée prophétique, de faire d'elle la femme d'un homme riche et puissant qui allait être le père de Jacob et qui allait être également le descendant et qui était le descendant d'Abraham. Alléluia. C'était pas une question de quelques euros. C'était une question de aujourd'hui là, ta vie peut changer. Et qu'est-ce que tu fais pour? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ce Dieu-là que tu veux servir pour voir son œuvre avancer? Alléluia. Sans chercher à savoir qu'est-ce que tu auras en retour. Amen. Elle aurait pu aussi se contenter du minimum. Le monsieur ne lui a pas demandé de donner à boire à ses chameaux. Il pouvait même pas. Mais elle avait fait une prière. Seigneur, vraiment, la femme que tu as donnée à ton serviteur permet que, en plus de me donner à boire, elle se propose de donner à boire à mes chameaux. Donc, il y a des gens qui aiment faire le minimum dans la vie. Écoutez, moi, je ne fais que ce qu'on me demande. Donc, quand on lui demande de donner à boire au monsieur, elle lui donne à boire, et puis elle dit, bon, vraiment, que Dieu te bénisse, gloire à Dieu, et puis elle s'en va. Parce que quand elle-même, elle a vu les chameaux, là, elle savait que c'était 2 heures minimum de travail. Elle aurait pu se contenter du minimum. de faire ce qu'on lui a demandé. Et c'est tout. Mais elle a identifié un besoin. Et elle était prête à pouvoir à ce besoin-là. Alléluia. Même en donnant à boire au chameau, elle aurait pu faire 5 voyages ou 10 voyages. Et puis dire, bon, moi j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant débrouille-toi. Que Dieu te bénisse, au revoir. Mais la Bible dit, au verset 21, que l'homme la regardait avec étonnement sans rien dire. C'est-à-dire que lui-même, il était étonné de voir que cette fille-là a fait ses 40 voyages. Elle a fait ses 40 voyages pour aller prendre de l'eau et donner à boire aux chameaux et à tous les chameaux jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Donc eux-mêmes, ils se sont arrêtés, ils ne voulaient plus boire. Quand elle amenait de l'eau, ils disaient, bon, c'est pas que les chameaux parlaient, mais ils ne buvaient plus. Ça veut dire que les chameaux, leur soif était étanchée. Amen. Mais elle a commencé d'abord par faire ce qu'on lui demandait et ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire donner à boire à l'homme. Donc, il faut que tu saches que tes efforts supplémentaires vont produire dans ta vie des faveurs supplémentaires. Des sacrifices supplémentaires, des offrandes supplémentaires, les efforts supplémentaires vont toujours produire dans ta vie des faveurs supplémentaires, des miracles supplémentaires et des bénédictions supplémentaires. Tout ce qui est supplémentaire comme bénédiction vient d'un effort supplémentaire que tu as produit. Vient de quelque chose que tu as fait en plus, qui a permis que la porte puisse s'ouvrir et que la bénédiction puisse descendre encore plus. Si tu fais comme Paul, tu auras les mêmes choses que Paul. Si tu fais comme Nicole, tu auras pas, même encore pas forcément. Si tu te contentes de faire le minimum, tu n'auras que le minimum de bénédiction. Mais si tu fais plus que le minimum, alors tu auras un maximum et tu auras plus que le minimum de bénédiction. Grâce à la générosité de Rebecca, elle a épousé Isaac. Elle a été comblée de richesses et plus tard, on va le voir, elle a été même guérie de stérilité. Parce qu'elle ne le savait pas, mais elle était stérile. Mais comme Dieu voulait donner une descendance à Isaac, et qu'elle était la femme d'Isaac, il fallait que cette situation-là soit décantée. Et cette jeune fille qui était stérile, la Bible dit qu'elle a été délivrée de la stérilité et elle a donné naissance à des jumeaux. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu dis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu cites le nom de son mari et de son fils. My God. My God. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a sacrifié 2 heures de son temps pour pouvoir le consacrer à quelqu'un qui était dans le besoin. Parce qu'elle avait un rendez-vous avec sa destinée et qu'elle n'a pas raté ce rendez-vous-là. Amen. Elle est devenue donc l'arrière-grand-mère du Seigneur Jésus. La Bible dit que après qu'elle est finie, donc on va reprendre, hein, pour que là maintenant tu comprennes un peu plus l'engagement que c'était, donc pour Rebecca de nourrir et d'abreuver ces chameaux-là. La Bible dit au verset 14, donc le serviteur dit que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, je te donnerai aussi et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche à l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Donc, pour aller à la source, même, il fallait descendre. Et après, maintenant, pour remonter, et ensuite, pour revenir, il fallait remonter. C'est-à-dire, si tu descends pour aller à la source, c'est que tu dois remonter maintenant pour aller à l'abreuvoir. Donc, ça veut dire que c'est encore un effort supplémentaire. C'était vraiment quelque chose de fastidieux, de dur. C'était pas quelque chose de facile. Le serviteur donc courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle lui achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut. Donc, elle ne l'a même pas fait en marchant. Amen. Beaucoup de personnes aurait dit, hé, vraiment, qui m'a dit même de... Mais moi-même, j'aime trop jouer les papato. Qui m'a appelé, qui m'a dit même de venir, de dire oui à cette affaire-là. Voilà, maintenant, je suis en train, elle a fait déjà un voyage, deux voyages, trois voyages. Normalement, les mollets même commencent à lui faire mal. La plante des pieds commence à lui faire mal. Il y en a qui vont dire à l'homme là, bon, excuse-moi, hein, j'ai pas porté les chaussures adéquates là. Je reviens, hein. Attends-moi là, attends-moi, hein. Attends-moi. Et puis, paf! Elle s'en va, elle revient pas. Mais comme elle s'était engagée et que c'était une femme de parole, ça dit que cette épreuve-là a fait ressortir des qualités exceptionnelles et extraordinaires de cette femme. Lorsqu'elle disait quelque chose, elle l'accomplissait. Lorsqu'elle s'engageait dans quelque chose, elle allait jusqu'au bout. Son oui était oui et son non était non. Elle ne disait pas oui et elle faisait comme si c'était non. Et lorsqu'elle faisait les choses, elle les faisait avec empressement. Alléluia. La Bible dit que donc elle courut. Elle courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. My God. L'homme la regardait avec étonnement sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Donc, en plus de ça, après quatre voyages, cinq voyages, elle pouvait le regarder puis dire, mais, hey, tonton, ça fait au moins cinq voyages que j'ai fait là. Tu ne m'as même pas proposé de m'aider. Hein? Si au moins je viens, je te donne la cruche et puis toi tu prends, tu me ramènes ça, vraiment ça l'aide plus facile. Ou bien moi je m'arrête au puits. Non, tonton, vraiment c'est pas bien, hein? Mais le monsieur la regardait. Mais comme elle s'était engagée, elle le faisait sans chercher à savoir quel est le rôle que lui doit jouer, quel est le rôle que l'autre doit jouer, qu'est-ce que l'autre aurait pu faire. Elle l'a fait avec toutes ses forces, toute son énergie. Elle s'est engagée à le faire. Voyez, quand je regarde par exemple le miracle de Canaan, au mariage de Canaan, aux noces de Canaan, lorsque Jésus a demandé qu'on aille remplir six cruches d'eau. En fait, c'était même pas des cruches, c'était des jars, des vases. Donc, c'était des trucs de 35 litres chacun. Six, c'était pas une petite affaire. C'était une affaire de 2-5 litres. Et là, en ce temps-là, on prenait pas l'eau comme ça. Il fallait aller au puits, puiser aussi. Donc, vous imaginez des gens, un groupe de personnes qui vont puiser de l'eau. Et sa mère avait dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Donc les gens en allant puiser de l'eau pouvaient se demander, mais c'est quoi cette affaire? On lui dit que le vin est fini, il nous dit, on a qu'à remplir six cruches. Six cruches de 30 et quelques litres chacun. Bon, c'était plusieurs voyages. Et à un moment même, les gens pouvaient se regarder, se demander, on va voir cette affaire-là, où ça va aller. Mais ils le faisaient quand même. Alléluia. Ils l'ont fait quand même. Et ce n'est que lorsqu'ils ont fini de remplir les jars, lorsqu'ils ont fini de remplir les six, là, il leur a dit maintenant, prenez un peu dedans, allez donner à l'ordonnateur de la cérémonie. Quoi? Il n'a même pas prié. Il n'a même pas imposé les mains au jar. Il n'a pas parlé en langue. Il n'a rien fait. Simplement, il a dit, bon, allez puiser. Il y a des gens qui ne supportent pas quand ils viennent voir un homme de Dieu, et puis l'homme de Dieu leur dit, bon, va faire ça. Non, ça les fatigue. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'on leur impose les pieds et qu'on parle en langue. Là, ce jour-là, ils vont croire que vraiment Dieu s'est manifesté, que Dieu a agi. Mais des fois, c'est les choses que tu vas accomplir, que tu vas faire, qui vont décanter ta situation. Alléluia. Et ces gens-là, ils se sont levés, ils sont partis. Bon, quand tu veux véritablement voir le miracle, c'est comme Naaman. Naaman, il arrive chez Élisée, il pensait qu'Élisée allait descendre avec des gris-gris pour pouvoir mettre sur lui, prendre de l'eau, faire des incantations, prendre de l'huile d'onction, verser sur sa tête, lui imposer les mains, tout ça. Mais Élisée lui dit, mais va te laver dans tout, tu te plonges cette fois dans l'eau du Jourdain. Mais comme on lui demande de faire, non, c'est un problème pour certains. Quel est le sacrifice que tu dois faire qui va permettre à ton miracle de se produire? Quel est ce que tu as que Dieu veut pour pouvoir te donner ce que tu n'as pas? C'est souvent ça le problème. Le problème, c'est que tu n'es pas prêt à donner à Dieu ce que tu as, mais tu veux qu'il te donne ce que tu n'as pas. Et les gens veulent marchander avec Dieu. Alors que ceux qui ont vu les miracles de Dieu, la main de Dieu, sont des gens qui n'ont pas marchandé. Ce sont des gens qui se sont engagés pleinement. Qui se sont donnés corps et âme. Alléluia. Et Dieu les a récompensés en les bénissant au-delà de toute forme de bénédiction qu'ils pouvaient recevoir. Je vous ai dit tout à l'heure que après qu'elle ait fini de faire ces choses-là, le serviteur lui a donné une bague en or et deux bracelets. Ce qu'il lui a donné même déjà, ça représente des millions de francs CFA et plusieurs milliers d'euros. Amen. La Bible dit que la jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Et vous allez voir que dans toutes les discussions, là, son père n'apparaît même pas. Pas de père, regarde. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. C'est là que j'ai compris comment Laban est devenu riche. Parce que la maison de Rebecca, c'était une maison de galère terrible. Les gens, ils n'avaient pas d'argent là-bas. Pourquoi? Parce que leur père les avait abandonnés depuis longtemps. Quelle que soit la raison pour laquelle on ne parle pas du père, c'est soit parce que, un, il était décédé, soit tout simplement parce qu'il avait démissionné complètement du foyer, de la maison, il ne s'en occupait plus. Donc dans la maison, il y avait trois personnes. Il y avait Laban, il y avait Rebecca, et il y avait sa mère. Mais regarde. Donc, Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. C'est-à-dire, verset 30. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Donc, quand Laban a vu la bague et puis les bracelets, il a dit non. Il alla à la source. Alléluia. La Bible dit, il alla à la source. Laban n'était pas quelqu'un qui dormait. Laban avait déjà commencé à calculer avant même cet événement-là. Le jour où il aura l'occasion de devenir riche, un jour, tout ce qu'il allait faire. Et il a vu maintenant la chose passer. Il dit, quoi? Qui t'a donné la bague là? Non, c'est un homme que j'ai rencontré à la source. Et les deux bracelets? Non, c'est un homme que j'ai rencontré. Il est où? Laban a couru en même temps pour aller à la rencontre de cet homme. Amen. Parce qu'il savait que la bénédiction passait près de sa maison. Oh my God. Laban était quelqu'un qui était malin. Amen. Donc, en fait, en réalité, quand Jacob a doublé Laban, quand Jacob a trompé Laban, il ne faisait que récupérer ce que ses parents lui avaient donné. Alléluia. Et Laban, je comprends, Laban était méchant, parce que quand Laban a vu Jacob, il aurait dû dire, ah, voilà l'enfant de celui qui a permis que la bénédiction entre dans ma maison. Mais au lieu de ça, il a voulu encore récupérer le reste des richesses et profiter de Jacob. C'est pour ça qu'il est tombé sous la disgrâce. Amen. Sinon, regardez bien. Verset 29. La Bible dit donc, Rebecca avait un frère nommé Laban et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit, viens, béni de l'Éternel. Bon, si tu sais pas comment on reçoit la bénédiction, Laban lui connaît. Alléluia. Et il a identifié en même temps la source de la bénédiction. Il dit non, ça, tout ça là, il faut qu'il vienne chez moi. Regarde bien. Il dit, viens béni de l'Éternel. Comment il sait que l'homme est béni de l'Éternel? À cause des bracelets, puis qu'il a vu. Bon. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Donc, j'ai déjà apprêté la maison pour toi. Et en plus, j'ai préparé une place pour tes chameaux. Amen. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux. Et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Hein? Donc c'est vrai. Donc le serviteur n'était pas seul. Il y avait des gens avec lui. Donc il a fait dégager de la place, il a fait laver les pieds du serviteur, laver les pieds des gens qui étaient avec lui, donner de la paille aux chameaux. Amen. Donc, un homme comme ça, il ne peut que recevoir aussi la bénédiction. Lui, il voulait prendre sa part, mon frère. Puis, il lui servit à manger. Mais, il dit, en parlant du serviteur, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors il dit. Donc normalement c'est le père qui aurait dû lui dire de parler. Mais Laban, c'était vraisemblablement lui qui gérait la maison maintenant, vu que le père n'était plus là. Soit parce qu'il était mort, soit parce qu'il avait démissionné, soit parce qu'il avait abandonné la famille. Amen. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Amen. Dis à ton voisin puissant. Donc sur la terre, il y a des hommes qui deviennent puissants. Amen. Je te souhaite de devenir puissant. Alléluia. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'aie fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule. Et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, et j'ai dit, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné, j'ai adoré l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du père de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi, je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondit et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque les serviteurs d'Abraham eurent entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, il mangeait et but. On dit, il fit de riches présents à son père et à sa mère. Amen. Après quoi, il mangeait et but. Lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Amen. Le frère et la mère dit, que la fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il la laissait partir et laissait partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, bon, il lui dit des choses. Alléluia. Donc vous voyez un peu l'image, ce qui s'est passé. Amen. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Dans cette histoire-là, il y a beaucoup de types. Il y a énormément de types. Pour ceux qui savent un peu ce que sont les types, c'est que ce sont des personnages, donc dans une histoire, mais qui également ont une portée encore plus élevée que ceux qui représentent en réalité dans l'histoire. C'est-à-dire que vous pouvez identifier des personnages divins. Amen. Donc ici, quand vous regardez, les types qui y apparaissent sont très clairs. Vous avez Abraham, qui est un type de Dieu le Père. Amen. Qui envoie le Saint-Esprit sur la terre pour venir chercher son épouse, dont Rebecca est le type. Cette épouse-là, sans tâche ni rien de semblable, pour pouvoir la donner à son fils, Isaac. Pourquoi est-ce que vous pouvez dire que c'est un type? Parce que Isaac va épouser effectivement Rebecca sans l'avoir vue, comme le Christ également. Et les noces, Abraham les a préparées. Amen. Il a préparé les noces, comme nous allons avoir également les noces de l'agneau, lorsque l'Église, qui est l'épouse de Christ, sera emmenée au ciel pour les noces de l'agneau. Alléluia. Vous remarquez que, à un moment, on parle du serviteur à qui on ne donne pas de nom, comme de l'intendant de toutes les richesses de son maître. Et c'est lui qui est envoyé en mission, comme le Saint-Esprit est venu sur la terre, et qui administre les richesses, les biens, les dons du Seigneur. Amen. Donc, quand tu vois toutes ces images-là, il y a une attitude que tu peux, il y a quelque chose qui peut ressortir par rapport à ton attitude vis-à-vis du Saint-Esprit pour te permettre véritablement d'entrer dans les richesses et dans les bénédictions. Le Saint-Esprit, le serviteur est venu chercher une épouse. Si Rebecca était vilaine, il n'a même pas lui demandé de l'eau. La Bible dit, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ce que le Saint-Esprit va présenter au Seigneur Jésus lors des noces de l'agneau. Amen. Donc ça parle d'enfants de Dieu. Ça parle de personnes qui remplissent déjà les qualités morales, spirituelles, physiques même, pour pouvoir faire partie du royaume de Dieu. Et regardez, ça, la manière dont ça s'est passé, ça ne se fait pas en Israël. D'aller chercher une future épouse dans la maison, bon, là on peut même pas dire dans la maison de son père, dans la maison de sa mère, puisque son père a complètement démissionné, de la prendre et de la ramener comme ça, sans qu'il y ait une visite préalable du futur époux ou bien des parents du futur époux pour aller demander la main de la fille. Ça ne se fait pas. Mais le Saint-Esprit vient chercher l'Église. Il vient chercher l'épouse de Jésus. Amen. Amen. Il vient la préparer. Et donc, tu dois comprendre que, effectivement, tu dois produire des efforts pour pouvoir permettre à l'Esprit d'agir dans ta vie, pour pouvoir permettre aux bénédictions de couler dans ta vie. Et puis, il faut savoir que donc tous les efforts supplémentaires que tu fais vont attirer dans ta vie des bénédictions supplémentaires. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que tout acte de générosité va se répercuter sur les gens que tu aimes et les gens que tu chéris. Alléluia. L'acte que Rebecca a posé a transformé la vie de son frère. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais la Bible dit que le serviteur a fait de riches présents à son frère et à sa mère. Et après, on parle de Laban comme étant un homme riche. Amen. Donc, quand tu donnes généreusement, ceux que tu aimes seront bénis. C'est une manière également d'attirer la bénédiction sur la vie de tes enfants. C'est une manière d'attirer la bénédiction sur la vie de ta famille. C'est une manière d'attirer la bénédiction sur la vie de tes proches. Ne pense pas que en donnant généreusement, tu es en train de les priver de quelque chose. Non, tu donnes à l'Éternel des armées, ceux de ta famille également seront bénis. Alléluia. Le serviteur n'a pas manqué de bénir et le frère et la mère. Et Rebecca elle-même, elle a été bénie. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des efforts. Amen. Maintenant, tu dois savoir que les efforts que tu fais, et les efforts de générosité que tu fais, les actes que tu poses, les sacrifices que tu fais, amen, vont continuer d'agir, même après ta mort. Cet acte qu'elle a posé là, ça continue d'agir jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont posé des actes qui continuent de parler jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont donné un terrain, par exemple, pour la construction d'une église. Jusqu'à aujourd'hui, l'église, les gens continuent d'être sauvés sur ce terrain. Les vies continuent d'être sauvées. L'évangile continue d'être prêché. Pendant 500 ans, 1000 ans, sont le plat qu'il a fait, qu'il a posé là, continue d'être en bénédiction. Alléluia. Imagine ce que serait le monde si Noé avait refusé de bâtir l'arche. Vous connaissez l'arche de Noé, non? C'est l'arche qui a permis que l'humanité soit sauvée lors du déluge. Imaginez qu'il ait refusé. Dieu lui dit, bon, bâtis une arche pour pouvoir sauver les animaux de la terre. Il dit, non, moi, je ne suis pas un fabricant de bateaux, je ne sais pas comment on fait. La preuve, il a mis 100 ans pour pouvoir finir de construire ça. Il n'avait pas de plan. 100 ans, Dieu lui a donné le plan. Mais ça lui a pris 100 années pour construire le bateau. À un moment, il pouvait se dire, mais imaginez un bateau dans lequel tu vas mettre un couple d'éléphants, un couple de rhinocéros, un couple de girafes. Un couple de lions, c'était pas une petite affaire. C'était quelque chose d'immense. Il aurait pu refuser de le faire. S'il avait refusé, on n'allait pas parler même d'humanité. À cause du sacrifice de Noé, nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. Imaginez si Moïse, lorsque Dieu lui a dit, bon, retourne en Égypte, il dit, en tout cas, moi, je ne retourne pas là-bas. On dit, non, mais va en Égypte. Il dit, non, 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 c'est bon. Ils ont failli me tuer, c'est bon. D'ailleurs, même on me cherche là-bas. Si je vais, ils vont me tuer. C'est bon. Dieu lui dit, non, va, va. Il dit, non, 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 c'est bon. Arrière de moi, Satan. Tu es vaincu. Non, parce qu'il y a des gens qui font comme ça. Lorsque Dieu leur demande de poser un acte, ils vont trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire. Alors que cette servante-là, Rebecca, elle allait plus loin même que ce qu'on lui a demandé. Alléluia. Elle a fait plus. Et comment voulez-vous que le royaume de Dieu avance si on se contente de faire le minimum? Comment? Aujourd'hui, les gens font plus pour leur hobby, pour leur passion. Regardez comment actuellement le football déchaîne les foules. Quand on sort un billet de football un mois avant le match, le prix normal du billet, des fois c'est 20 euros, 30 euros. Mais les gens sont prêts à payer 100 euros, 200 euros pour aller voir un match. Il y a des gens qui sont même prêts à payer 1000 euros. Il y a des gens qui vendent des billets à l'entrée du stade à 1000 euros, 1500 euros, 4000 euros. Et il y a des gens qui paient 4000 euros pour aller s'asseoir dans un stade pour voir des gens en train de courir derrière un ballon. J'ai un de mes amis qui disait, oh, en tout cas, moi, je vais aller au mondial. Je suis prêt à payer le billet d'avion, à payer le ticket, même si c'est 1000 euros, je vais payer. Je dis, vraiment, tu peux pas donner 1000 euros pour que l'œuvre de Dieu avance, mais tu es prêt à payer 1000 euros pour aller regarder un match de football au monde. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le football remplit des stades. Le monde entier est braqué dessus et regarde ces choses-là. Alors que l'évangile a besoin de vos sacrifices. A besoin que des gens, je ne parle pas seulement de sacrifices d'argent, ou bien des offrandes, mais des sacrifices même de votre engagement, de votre vie, de votre engagement pour voir l'œuvre de Dieu avancer. Des fois, ça demande de changer même de mentalité. Parce que regardez, vous avez des œuvres qui avancent et vous avez des œuvres qui stagnent. Des fois, il faut être prêt à s'investir pour voir une œuvre qui avance aller encore plus loin. Pourquoi? Parce que une œuvre qui n'avance pas, je suis désolé, quand vous investissez dedans, c'est comme si vous êtes en train d'enterrer votre argent. Les âmes ont besoin d'être évangélisées, les gens ont besoin d'être enseignés, des vies ont besoin d'être transformées, des vies ont besoin d'être délivrées. Mais les dieux ont besoin de vous. Et quand on dit non, je me soucie pour mon fils, je me soucie pour ma fille, je me soucie pour mon mari, je me soucie pour ceci, mais sache qu'il n'y a aucune bénédiction, aucun sacrifice que tu feras pour l'Éternel. Et l'Éternel ne te bénira pas toi et également ta famille. Engagement, sacrifice, c'est comme ça que le royaume s'est bâti. Marie aurait pu refuser. Elle dit, en tout cas, moi, je ne veux pas entendre parler de cette naissance virginale-là. Pourquoi vous n'avez pas vu? Je ne suis pas la seule vierge ici en Israël. J'ai ma camarade, Monique. Elle est vierge aussi. Il y a une autre, elle s'appelle Julie. Elle aussi, elle est vierge. Allez voir Julie. Mais moi, je m'apprête à me marier. Parce que dans la tradition juive, ils étaient déjà mariés, en fait. C'est-à-dire que, on les présente lors des fiançailles, mais la date du mariage est déjà fixée. Et ils ont un an pendant lesquels ils se fréquentent, ils se rencontrent, ils n'ont pas le droit de se connaître, de faire quoi que ce soit ensemble. Et donc, lui, il reste chez son père, elle reste chez sa mère. C'est pour ça que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, il reste, c'est déjà sa femme. Mais, il y a un jour maintenant qui est fixé où il quitte la maison de son père et la femme quitte la maison de son père pour maintenant bâtir un foyer. Et à ce moment-là, Joseph lui-même, il aurait pu refuser de couvrir Marie. En disant, mais toi, tu me parles de quoi là? Tu es tombé enceinte par quoi? C'est quoi qui est tombé sur toi? Le Saint-Esprit, quoi? Attends, non, arrête ça là. Et là, c'était dangereux pour lui aussi. Parce qu'on pouvait l'accuser, lui, même si c'était sa femme, d'avoir commis l'adultère avec sa propre femme, avec sa fiancée. Ternir son image, ternir sa réputation, il aurait pu refuser. Que des sacrifices. Paul, il aurait pu refuser d'écrire des lettres, refuser de faire tous ses voyages, mais il n'était pas obligé. Pierre était bien tranquille à Jérusalem. Et lui seul, on dit va à Éphèse. Après on lui dit bon, va à Corinthe. Après on lui dit bon, faut aller chez les Philippiens. Après on dit non, faut aller à Galate. Il peut dire non, moi c'est bon, je suis fatigué. Mais à cause de l'évangile, il a sacrifié le mariage et l'éducation des enfants et les enfants et tout ça pour pouvoir se livrer corps et âme pour permettre à l'évangile d'avancer. Et Jésus aurait pu refuser d'aller à la croix. C'est pas la pensée qu'il n'a pas eue. Hein? Quand vous regardez bien dans Gethsemane, à Gethsemane, ça chauffait. Jusqu'à ce que lui-même, il pose la question à Dieu. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour pouvoir sauver l'humanité sans que je n'aie à passer par la croix? Ah, mon frère, il était 100% Dieu, mais il était 100% homme. C'est-à-dire qu'on venait de le trahir, la même journée, on venait de le trahir, de le frapper, de le battre, de l'insulter, de le bafouer, de lui faire toutes ces... C'est-à-dire qu'il voyait toutes ces choses, bon, rien, en fait, il n'avait pas encore reçu ces choses-là, mais il les voyait venir, amen, et les sentait déjà, c'est comme si il avait déjà la pression de ces choses, il voyait tout ce qui allait se passer, et il savait tout ce qui allait se passer. Et il demande, il dit, mais est-ce que cette coupe-là, est-ce que... C'est possible de ne pas la boire. Après, il dit non, qu'il me soit fait selon ta volonté et non selon ma volonté. Si c'est lui-même, il n'est pas là à la croix. Mais comme c'était le plan de Dieu pour sauver l'humanité et qu'il était venu pour ça, il a accepté de faire le sacrifice. Alléluia. Le royaume de Dieu se bâtit sur le sacrifice, sur les efforts. Et Rebecca en a fait. Amen. Comme je l'ai dit plus tôt, Abraham, on peut lire hein, dans Matthieu chapitre 22, verset 2. Matthieu 22, 2. La Bible dit, au verset 2, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. » Amen. « Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout prêts. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, ceci à son champ, cela à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Donc vous voyez, Dieu nous invite. Mais chacun veut s'occuper de ses affaires. Chacun veut s'occuper de ses business. Chacun veut s'occuper de ses activités. Mais si chacun s'occupe de ses affaires, qui va s'occuper des affaires de Dieu? Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose. Je crois que Dieu est prêt à faire quelque chose d'extraordinaire. Je crois que Dieu est prêt à faire des faveurs extraordinaires. Je crois que Dieu est prêt à bénir des personnes de manière extraordinaire. Du jour au lendemain, Rebecca est devenue une femme riche, une femme comblée, une femme bénie. Elle a épousé un homme puissant. Sa famille est sortie de la pauvreté le même jour. Je crois que Dieu veut toujours faire ce genre de choses-là. Je crois que Dieu est capable de te faire entrer dans une dimension ministérielle extraordinaire, de te permettre véritablement d'entrer dans une onction exceptionnelle, de te permettre d'avoir des dons qui vont se manifester de manière surnaturelle et de manière puissante. Mais Dieu s'attend à ce que tu sois au-dessus de la masse et que tu fasses plus. Alléluia. Et que tu fasses plus. Que tu t'engages plus. Que tu pries plus. Que tu jeûnes plus. Que tu intercèdes plus. Que tu mettes un peu plus de temps pour son œuvre. Que tu fasses un peu plus de sacrifices. Alléluia. Si tu veux plus, fais plus. Amen. Dis à ton voisin, si tu veux plus, fais plus. Alléluia. Aucun homme, et ça je l'ai dit dans Libère ton potentiel, aucun homme n'est né grand serviteur de Dieu. Même Christ, lorsqu'il est né, n'est pas né en récitant les paroles. La Bible dit qu'il a grandi en stature et en sagesse. On devient puissant. On devient fort. On devient oint. On devient expérimenté. C'est un processus de développement. Personne ne naît avocat, juge, milliardaire, ou bien ces gens, bon, certains naissent dans des familles de milliardaires, c'est le seul truc. Mais si il ne se développe pas pour atteindre le niveau d'intelligence qui lui permet de vivre avec ces milliards-là, il va les perdre. Amen. Mais nous sommes tous appelés à nous développer. Et pour se développer, tu ne peux pas continuer de faire ce que tu as toujours fait et puis tu vas te développer. Tu vas te développer comment? Tu te développes lorsque chaque jour que Dieu fait, tu fais toujours un peu plus. Alléluia. C'est comme ça que tu vas connaître l'explosion. C'est comme ça que tu vas connaître la faveur de Dieu. C'est comme ça que tu vas connaître la gloire de Dieu. C'est comme ça que tu vas voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. La France est un terrain difficile. Mais c'est ce genre de terrain même que Dieu aime. Alléluia. La Caraïbe a été mise sous un joug. Mais la Bible dit que l'onction fera éclater le joug. Alléluia. La seule réponse, en tout cas l'évangile qui va transformer la Caraïbe et qui va transformer la francophonie, ce n'est pas un évangile basé purement sur la lettre, mais c'est un évangile qui va amener également la démonstration de la puissance de Dieu. Un évangile qui va permettre à l'onction de Dieu de se manifester dans la vie des gens. On ne peut pas séparer, enlever l'onction et puis croire qu'on va apporter la révolution. C'est pas possible. Il faut l'onction. Et pour avoir l'onction, il faut payer le prix. Une fois, j'ai enseigné à une conférence d'hommes d'affaires. Il y avait plus de 800 hommes d'affaires qui sont venus de partout dans la Caraïbe. Et les gens qui ont organisé la conférence m'ont dit, non, il faut que tu amènes les gens à comprendre que tout ce que tu fais là, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel et qu'ils peuvent en faire autant. Donc j'ai prié le Seigneur pour avoir mon message et tout. Et après, quand je suis venu, je vois des gens qui étaient en train de boire des apéritifs. d'autres de fumer le cigare. Ça parlait bien, ça, l'autre boit son petit punch au coco. L'autre, il boit son petit punch à la passion. L'autre boit son truc. Et puis, il rit bien, à gauche déployé. Et maintenant, ils viennent s'asseoir là. Il faut que moi, je leur dise qu'ils continuent de faire comme ça. Et Dieu va les utiliser. Je les ai regardés, je leur ai dit. Pour pouvoir manifester l'onction là, il y a un prix à payer. Pendant que vous buvez les rhums, d'autres sont en train de jeûner. Pendant que vous êtes dans des causeries et dans des remarques bizarres que vous faites à telle personne, à tel frère, tout ça, il y a des gens qui sont en train de prier. Et vous allez me dire que vous allez avoir les mêmes résultats. Si vous voulez que Dieu commence à se manifester de manière surnaturelle dans votre vie, il va falloir que vous commenciez à payer le prix. Dieu. Il ne faut pas regarder les autres pour dire non, Dieu va utiliser telle personne. Dieu va utiliser. Non, Dieu va t'utiliser toi. C'est toi qui vas utiliser. Pourquoi tu veux qu'il utilise les autres? C'est toi. C'est toi qui entends la parole. C'est toi qui sais ce qui doit être fait. C'est toi qui sais quel est le prix qui doit être payé. Pourquoi est-ce que tu veux que ce soit... Moi, ils auraient pu dire, mais laissez-moi, il y a Moussa qui est là-bas, allez le chercher. Lui n'est pas recherché en Égypte. Est-ce qu'il était le seul juif qui s'était échappé de l'Égypte? Il n'était pas le seul. Élie, lorsqu'il a fait tuer les prophètes de Baal, il a dit, oh Seigneur, je suis le seul qui te suis resté fidèle. Dieu lui a dit non. Les gens comme toi là, il y en a encore 7000. Il aurait pu dire, ah bon, mais pourquoi tu n'es pas allé les chercher? Pourquoi c'est moi? Maintenant, je suis en parlable avec Jézabel. Elle me poursuit partout. Mais il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix. Dis à ton voisin, il y a un prix. Amen. Tu veux la gloire de Dieu, tu veux la puissance de Dieu, tu veux la faveur de Dieu, tu veux les miracles. Je te dis, crois au miracle, crois à la faveur. Arrête de te cantonner et de croire à la médiocrité. Dieu ne nous a pas appelé un évangile de médiocrité, je suis désolé. Ça, je refuse cela. Dieu ne nous a pas appelé à vivre caché, en catimini, à avoir à peine de quoi subvenir à nos besoins, à vivre dans la pauvreté, à avoir toutes sortes de problèmes, de situations. Non! Dieu nous a appelé à briller. Et il a dit, il n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. Mais lorsqu'il allume, il la met en évidence pour qu'elle puisse éclairer toute la chambre. Quand tu es converti et que tu es connecté avec Dieu, Dieu veut que tu puisses briller et que autour de toi, les gens puissent se dire, il y a quelque chose de spécial qui se passe dans la vie de cette femme. Que ce soit évident. Mais pour cela, il faut être prêt à faire plus. Rebecca a fait plus, elle a obtenu plus. D'éternité en éternité, elle restera la mère de Jacob. Alléluia. Et l'arrière-grand-mère de Jésus. Et Dieu a préparé quelque chose pour toi. Il a préparé quelque chose pour toi dans lequel tu vas rentrer. On va se lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Il a préparé quelque chose pour toi dans lequel tu vas rentrer. Il y a des sacrifices qui ouvrent des portes. Il y a des élans de générosité qui attirent des bénédictions. Alléluia. Je voudrais savoir ici, quels sont ceux qui veulent véritablement vivre dans le surnaturel? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la meilleure des choses. Il faut vivre dans le surnaturel. On va prier le Seigneur. Tu vas prier ton Dieu. Et tu vas lui dire, Seigneur, j'attends plus de toi. Je veux voir plus de ton royaume. Je veux manifester plus de grâce. Je veux voir plus d'onction.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.